Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal Billy Van Lutumba.
Grand rendez-vous de football tout de suite pour la RDC, les Léopards se mesurent tout à l'heure à 21h de Kinshasa au Sili Guinéen pour arracher une qualification en demi-finale de la CAN 2023. Ainsi, ce journal s'ouvre par la température prélevée aujourd'hui à Kinshasa auprès des amoureux du ballon long et fanatiques de l'équipe nationale. De l'humanitaire, il en sera question dans ce journal avec cette situation dramatique dans le site des déplacés de Savo au nord de la ville de Bounia dans le territoire de Djougou. Près de 90 personnes sont décédées en une période de 3 mois. Principale cause, la malnutrition aiguë dans ce site. Mettre en valeur le savoir ancestral dans la lutte contre le changement climatique, Samuel Yagassé, membre de la coalition Bessanja pour la justice climatique des communautés locales du bassin du Congo, explique et il parle de la gestion des ressources naturelles. Il est l'invité que vous suivrez en fin de ce journal. Restez donc avec nous pour découvrir d'autres contours de l'actualité congolaise. Excellente condition d'écoute et bienvenue et bonsoir à toutes et à tous. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir. La République démocratique du Congo, RDC, affronte la Guinée ce vendredi soir à 21h au stade olympique Alassane Ouattara d'Mbimpe dans le cadre des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023. Un match à élimination directe entre les deux sélections qui se connaissent mieux. À Kinshasa, quelle ambiance prévaut avant cette rencontre? Notre reporter Vanessa Kongolo est descendue dans les rues de Kinshasa. Voici son reportage.
Dans les rues de Kinshasa ce vendredi, les discussions tournent autour de matchs que les Léopards vont livrer contre les Sili nationales de la Guinée. Absents de la CAN au Cameroun, les Léopards ont réussi à donner le goût, l'envie, mais surtout la fierté aux Congolais après la qualification en quart de finale face à l'Égypte. Dans les grandes artères, les vendeurs de varices et autres insignes de la RDC sont perceptibles. Les motos, taxis et autres véhicules ont arboré les drapeaux de la RDC. Les hommes, femmes, jeunes vieux habillés en maillot de léopard sont visibles dans les rues de la capitale congolaise. Pour les fans, c'est possible d'aller plus loin. David Ndangi.
Nous avons 1000 chances de gagner. Le pays qui reste en peur de nous. Félicitations à nos joueurs pour le niveau que nous avons atteint.
Corriger les erreurs de la ligne d'attaque pour arriver jusqu'en finale, c'est le souhait de Dieu merci Capita.
J'ai espoir que la RDC va gagner la Guinée aujourd'hui. Avec le football qu'on développe, c'est possible qu'on arrive jusqu'en finale. Mais surtout, il faut qu'on puisse revoir notre attaque.
RDC Guinée, match à suivre à partir de 21h, heure de Kinshasa.
Comme dit tantôt, la RDC croise la Guinée sous le coup de 21h de Kinshasa. Alors, quels sont les atouts de ces deux adversaires? Suivez ce reportage de Didier Blé, notre confrère de la Radio de la Paix, ancien média des Nations Unies en Côte d'Ivoire.
Deux outsiders à l'entame de la compétition qui, par leur abnégation, ont fini par être de sérieux prétendants au titre suprême. Pour les Léopards, il est question de rééditer l'exploit de Pierre Moulamba Moutouboula et les siens en 1974. Mais en face, il va falloir affronter les éléphants guinéens. Pour le coach des Léopards, Sébastien Desabre, c'est un match ouvert face à une équipe qui joue bien au ballon. Jeudi, en conférence de presse d'avant-match, il a dit s'attendre à un match ouvert contre le Sidi au stade Alassane Ouattara d'Ibi. Et Desabre, quelques heures auparavant, avait souligné que cette CAN 2023, loin d'être une CAN des surprises, est une compétition où les équipes qui se sont bien préparées sur la durée récoltent tout simplement le fruit de leur travail. Reste à revoir l'efficacité de Sepoulin devant les buts. 3 buts marqués en 4 rencontres, 3 nuls en phase de poule et une victoire au tir au but face aux Égyptiens en 8e de finale. La Guinée de son côté est sur son nuage. Le coach Kaba Diawara est confiant quant à une qualification ce vendredi face aux Congolais. On n'a pas de plan spécial. Mentalement, nous sommes prêts à gagner contre la RDC, charriant pour la suite les Léopards. Nous allons utiliser leur chicotte contre eux. Il a souligné en conférence de presse d'avant-match, notant que les Léopards ont remporté leurs 2 derniers matchs officiels face au Sili lors des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. La dernière défaite de la RDC face à la Guinée remonte à la CAN Tunisie 2004. Le coup d'envoi de cette rencontre sera donné à 20h, heure locale, et l'arbitre algérien Mostafa Gorbal a été désigné par la CAF pour diriger ce match entre la RDC et la Guinée. Didier Blé depuis Abidjan au Radio Kapi.
La situation humanitaire est préoccupante dans le site des déplacés de la plaine Savo à environ 110 km au nord de la ville de Bounia, dans le territoire de Djougou. Au moins 90 personnes sont mortes en l'espace de 3 mois suite aux problèmes de malnutrition dans ce site. C'est ce que précise le président de ce campement. Emmanuel Ndalo ajoute que de nombreuses familles sont sans abri, qui ont été détruits suite aux intempéries. Il alerte le gouvernement et les humanitaires pour une intervention urgente en faveur de ces sinistrés. Il est joint au téléphone par Ezekiel Mouzalia.
Nous avons vraiment d'énormes difficultés que nous sommes en train de vivre dans le site déplacé de Plaine Savo. Depuis le mois de novembre, nous avons enregistré 87 personnes mortes. Nous perdons vraiment nos frères, nos femmes, nos grands-pères. Nos femmes qui sont enceintes, qui allaitent, qui meurent. Alors vraiment, c'est une condition de vie très, très risquable pour notre communauté. Ceci nécessite aussi la construction des abris d'urgence, de construire des abris d'urgence pour nous protéger jusqu'à notre retour. L'assistance même ne couvre pas tous les déplacés qui vivent dans les sites de déplacement. Notre communauté est exposée à une extermination. Alors mieux vaut qu'on retourne dans notre village d'origine.
Dans la province de la Tchopo, 25 assaillants Lingola, dont une femme, ont déposé volontairement les armes auprès des FRDC mardi dernier à Ubundu, territoire situé à 125 km au sud-est de Kisangani. Il s'agit des éléments qui semaient la terreur sur cet axe routier, notamment au point kilométrique 67 et 82. Pour le ministre provincial de l'Intérieur, cet acte est consécutif à une forte sensibilisation menée par les autorités provinciales auprès des communautés impliquées dans le conflit Mbole-Lingola. Norbert Lokula-Lolisambo exhorte les autres éléments actifs Mbole d'emboîter les pas à leur homologue Lingola afin que la paix revienne dans ces milieux. Paix sans laquelle tout développement ne serait qu'illusoire. On l'écoute au micro de Jacques Mokongole.
On avait envoyé les éléments de FARDC parce que nous voulons maintenant nettoyer la route de Kisangani jusqu'à Bundu pour que les jeunes gens qui sont conscients d'abandonner leurs anciennes habitudes et de revenir dans les bons sens. C'est comme ça au PK 82, précisément au village Loussa et le village Madibi au PK 67, les bases qui étaient là, eux-mêmes se sont décidés pour aller déposer les armes à Obun. 3 calibres 12, 4 machettes, il y avait des flèches et aujourd'hui ils sont accueillis par les éléments de FARDC à Obun. C'est déjà un début de la paix. Les frères de l'autre côté ont commencé, les frères Lingola, et nous demandons la même chose pour les frères Mbol. Et si nous partons dans ce sens-là, je pense qu'il y aura de bonnes choses parce qu'il y a des projets pour la route au Bund. Comment on peut construire s'il n'y a pas la paix? Le fait de déposer les armes déjà, cela dure qu'ils ont mal des atrocités parce que la plupart entre eux, ce sont des jeunes qui devaient participer au développement. Vous trouvez que dans d'autres entités, les écoles, les formations médicales ne fonctionnent plus. Et maintenant, ils ont compris qu'avec ça, c'est une façon de chasser le développement. Il faut mettre fin à la guerre pour que nous puissions procéder à la construction de notre province.
Dans le Nord Kivu, les combattants Mai Mai, candidats au désarmement du site de Kassando à Kirumba, ne sont plus ravitaillés en vivres depuis 4 mois par le gouvernement. Après plusieurs plaidoyers sans suite auprès des autorités provinciales et nationales, le bourgmestre de la commune de Kirumba s'est résolu de mobiliser la population pour une assistance à ces combattants. La semaine dernière, la communauté a ainsi remis plus de 500 kilos de vivres aux locataires du site PDDRCS de Kassando. Eric Massinda, chef d'antenne du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation dans le territoire de Lubero, salue ce geste de solidarité et appelle le gouvernement à ses responsabilités. Il a été joint par Sadiq Aboubakar.
Nous saluons la population de Kirumba et le bourgmestre de la commune de Kirumba qui assistent à mobiliser la population de Kirumba pour récolter les vivres pour les ex-combattants de Kassando à Kirumba. Vraiment, nous saluons cette bravoure. Et cette population a collecté 600 kilos de farine de manioc et 30 kilos des haricots. C'est à saluer et à féliciter. Et cela est l'implication personnelle du bourgmestre de la commune de Kirumba. Et voilà, et la population maintenant est en train de supporter le poids du gouvernement. Et si nous sollicitons l'implication personnelle du chef de l'État, qui est le président du comité de pilotage du PDDRCS, c'est lui qui a la philosophie et la logique du PDDRCS, la présidence de la République comme institution.
Quelques nouvelles en plus bref. Dans le Nord Kivu, des dégâts collatéraux continuent à être enregistrés à la suite des combats qui opposent les FRDC et les groupes armés locaux contre les rebelles du M23 en territoire de Masisi et de Rutshuru. 3 personnes grièvement blessées et 2 maisons détruites ce vendredi après-midi au quartier Mugunga situé à l'ouest de la ville de Goma. Le porte-parole militaire a affirmé dans une courte déclaration ce vendredi soir que la bombe a été tirée par les rebelles du M23 à partir de la colline de Kagano sans plus de détails. Les blessés ont été conduits à l'hôpital Sebeka Ndosho, affirme un cadre de base de Mugunga. Par ailleurs, des combats à l'arme lourde enregistrés toute la journée de ce vendredi dans le Buito ont occasionné également une explosion d'une bombe ce matin à Mousso, sans faire des victimes, mais aussi à Karima, une localité qui accueille des déplacés dans la région de Mutanda. La situation reste tendue sur plusieurs axes. Et du côté de Beni, le secrétaire général adjoint aux opérations de paix Jean-Pierre Lacroix est arrivé ce vendredi à Beni dans la province du Nord Kivu. C'est dans le cadre de sa visite en République démocratique du Congo du 1er au 7 février. Jean-Pierre Lacroix commence ainsi sa visite dans l'est du pays. En plus des discussions avec les autorités provinciales, la société civile et les leaders communautaires, la MONUSCO et le personnel de l'équipe de pays des Nations Unies, la délégation qu'il conduit visitera une base de la MONUSCO dans le sud Kivu qui sera transférée aux autorités congolaises dans les prochains jours dans le cadre de la première phase du retrait accéléré de la mission. Jean-Pierre Lacroix rencontrera le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, récemment réélu, afin de renforcer l'excellente collaboration établie entre les Nations Unies et les autorités congolaises. C'est dans le cadre du désengagement de la MONUSCO du Sud Kivu. Les populations de Masisi et Rutshuru attendent impatiemment la récupération de toutes les entités occupées par les rebelles afin que les déplacés regagnent leur village pour pouvoir participer aux élections. C'est un des préalables qui paraît urgent avant d'envisager un quelconque calendrier des élections. C'est ce qu'a déclaré ce vendredi à Goma un notable élu de Rutshuru réagissant à la publication du calendrier des élections dans les trois territoires qui ont été privés des élections de décembre 2023, notamment Masisi, Rutshuru et Kwamout. Emmanuel Ngarouye Mouhozi explique au micro de Sifamagour.
Pour nous, l'urgence aujourd'hui, ce n'est pas ce calendrier électoral, parce que les entités comme Rutshuru, Masisi n'ont pas participé aux élections parce qu'elles sont occupées par les agresseurs. Et jusqu'aujourd'hui, on ne voit pas des efforts sur le terrain de libération de nos entités. Au contraire, ce que nous vivons, ce que nous voyons, c'est le renforcement chaque jour des militaires ougandais, des militaires rwandais qui viennent pour renforcer les rangs de l'ennemi. Et ce que nous voyons, c'est la prise des entités des localités chaque jour par l'ennemi. Maintenant là, l'ennemi est en train de se diriger vers Katsiru, Nyanzale, Bambo, dans le territoire de Rutshuru. À Masisi, les agresseurs sont en train de se diriger vers Ngungu sans aucune résistance. Ce que nous attendons, c'est lever l'obstacle qui nous a empêchés d'aller aux élections, à savoir l'occupation de nos entités par les agresseurs.
D'autres acteurs à Rutshuru ont salué la publication de ces calendriers, mais ils demandent au gouvernement de faire un effort pour restaurer la paix dans ces régions et à la CENI de respecter ce calendrier. Dans la ville de Butembo, les dépositaires des produits vivriers réunis au sein de la coopérative des dépositaires des produits vivriers sont en grève depuis lundi 29 janvier. Selon leur président, c'est pour dénoncer la révision à la hausse par la Direction générale des recettes du Nord Kivu, des GRNK, de la taxe du lait de l'expertise sous l'expertise et le fret terrestre. Kasai Matata déclare que cette taxe est passée de $45 à $150 américains par véhicule transportant des vivres et à destination de la ville de Butembo. Il demande aux autorités provinciales de revoir cette décision. Pour le moment, nous n'avons pas eu la réaction des responsables de la direction des générales des recettes du Nord Kivu. Selon des sources locales à Butembo, si la grève des dépositaires des produits vivriers perdure, une ratée de certains produits vivriers risque de s'observer sur le marché local, avec comme autre conséquence la hausse de prix des denrées alimentaires. En plus bref, avant de passer à la page internationale, Sud Kivu, la Ligue des consommateurs des produits au Congo Kinshasa, Likoski, s'inquiète de la disparité du prix de carburant à la pompe de la ville de Bukavu. La Likoski dit ne pas comprendre comment sur une même ville, un litre de carburant peut se vendre à des prix différents selon les stations-service. Les prix qui varient entre 3000 francs et 4000 francs congolais. Ainsi, la Likoski démantèle au gouvernement congolais à travers le ministère de l'économie de revoir la structure des prix à la baisse en les rendant uniformes.
Actualité internationale.
Des milliers de prisonniers condamnés devraient rejoindre plus de 27 millions de Sud-Africains aux urnes lorsque le pays tiendra ses élections très attendues plus tard cette année. Cela fait suite à une campagne réussie menée cette semaine par la Commission électorale indépendante CEI du pays pour inscrire les détenus éligibles sur les listes électorales qui ont pour la première fois dépassé la barre de 27 millions d'électeurs inscrits. Bien que le nombre des prisonniers inscrits sur les listes électorales n'ait pas encore été confirmé, la CEI espère qu'au moins 100 000 prisonniers voteront cette année contre un total de 15 000 détenus ayant voté lors des élections de 2019. Il y a un peu plus de 157 000 détenus dans les établissements pénitentiaires sud-africains. Et puis, les habitants d'une zone marécageuse du centre du Soudan du Sud se sont affrontés avec des éleveurs de bétail venus chercher de l'eau et des pâturages pendant la saison sèche. Au moins 38 personnes ont été tuées, 52 ont été blessées par balles, ont indiqué des responsables jeudi. Les combats ont commencé mercredi et les tensions sont restées vives jeudi soir, les autorités faisant état d'affrontements mineurs et craignant des attaques des représailles dans cette région isolée. Le ministre de l'Information de l'État de Warap a déclaré que des combats avaient eu lieu dans la région d'Alor qui se trouve dans l'État des Lacs et borde à la fois les États de Warap et d'Unity.
L'invité.
Plusieurs acteurs engagés dans la protection de l'environnement ont créé la semaine dernière à Goma la coalition Bessanja pour la justice climatique des communautés locales du bassin du Congo. Cette coalition, qui porte le nom d'un code en langue topoké qui régit la gestion des ressources naturelles, veut mettre en valeur le savoir ancestral dans la lutte contre le changement climatique. Samuel Yagas, membre de la coalition, explique ses objectifs dans cet entretien avec Rosalie Zawadi.
Monsieur Samuel Yagasse, bonjour.
Bonjour.
Vous travaillez pour la justice climatique des communautés locales. Quelles sont les injustices que subissent les communautés locales victimes du changement climatique en RDC?
Il faut d'abord dire que les communautés locales sont les toutes premières victimes de toutes ces injustices-là. Il faut aussi souligner le fait que les communautés locales ne sont pas véritablement responsables. Ils ne sont pas en première ligne en ce qui concerne les changements climatiques. Ce ne sont pas les communautés locales qui vendent des forêts en cascade. Ce ne sont pas les communautés locales qui coupent en termes de milliers d'hectares. Ce ne sont pas les communautés locales qui polluent des eaux et des terres. Ça, c'est quelque chose qu'elles sont en train de subir. C'est fait par d'autres personnes, mais celui qui paye les lourds tributs, ce sont les communautés locales. Nous estimons qu'il faut travailler à réhabiliter ces communautés locales et les peuples autochtones.
Et vous voulez passer par cette coalition Bessanja, qui veut dire?
Et Bessanja, c'est un terme en langue topoké, dans le territoire d'Isangi, dans la province de la Tchopo, qui signifie tout court interdit. C'est un code qui a été mis en place par le chef traditionnel, par les communautés locales des lacs, pour pouvoir protéger les forêts, nos forêts et nos eaux, de manière à penser aux générations futures. Donc c'est ça Bessanja. Et nous avons choisi d'utiliser ce terme parce qu'il est hautement significatif par rapport à la préservation des forêts, et des eaux et de la biodiversité dans les bassins du Congo.
Et donc, ces termes invitaient les communautés à respecter, à ne pas entrer de manière pas ordonnée dans...
Exactement. Donc, les termes Bessanja, c'est que c'est un code qui a été mis en place par la communauté pour dire, voilà, de telle période à telle période, il ne faut pas aller en forêt. De telle période à telle autre période, il ne faut pas aller chasser. De telle période à telle période encore, il ne faut pas aller faire la pêche parce que c'est le moment pour les poissons de se reproduire, ainsi de suite. Donc, il ne faut pas couper des arbres à chenilles, il ne faut pas couper des arbres qui donnent des fruits, il ne faut pas incendier gratuitement la nature comme ça. Donc, c'est un code qui n'a pas été mis en place par des intellectuels, qui n'a pas été mis en place par des experts, je mets ça entre guillemets, qui n'ont pas été mis en place par des grandes organisations internationales, mais plutôt par la communauté. Ça signifie que c'est un code qui est issu du savoir traditionnel qui existe, qui est là et qui peuvent être utilisés aujourd'hui pour sauver l'humanité.
Quels acteurs sont impliqués dans la coalition?
La coalition Bessanja concerne le bassin du Congo. Le bassin du Congo, la RDC, le Congo Brazza, la Centrafrique, la Guinée équatoriale, le Cameroun, le Gabon et même l'Angola. Et donc, mais on commence petit, on commence ici. Et c'est Goma qui a le privilège de voir naître officiellement cette coalition qui va concerner tout le bassin du Congo. Mais présentement, nous avons Yole Africa comme un membre, qui est ici à Goma. Il y a Gova qui vient de la province orientale, que je représente. Il y a CAE Lomata qui vient du Haut-Katanga. Il y a une dame qui est venue de Kinshasa, mais qui travaille dans la région de Maïndombe. Et là, nous sommes dans l'ex-province de Bandundu. Donc, c'est une coalition. Et il y a un de nos membres qui n'est pas là, qui devait venir du Gabon. Ben, il y a eu des problèmes de papier, ça traînait. Elle va être là prochainement. Donc, voilà les membres qui sont là. Nous pensons que ça va grandir. Et nous espérons avoir d'autres organisations qui pensent aussi comme nous, sur le plan idéologique, qui vont faire confiance au savoir traditionnel qui est là, qui existe, qui est négligé, tout simplement par complexe. On pense qu'il n'y a que ceux qui parlent français, qui parlent anglais, qui connaissent des choses. Nos ancêtres, parce qu'ils parlent nos langues, ils parlent Kibembe, ils parlent Kinande, ils parlent Topoké, ils ne connaissent rien. Ça, c'est une bêtise, quoi.
Monsieur Samuel Yagassé, je rappelle que vous êtes coordonnateur de l'ONG Groupement des organisations villageoises d'autodéveloppement dans la province de la Tshopo à Isangi. Merci.
C'est à moi de vous remercier, madame.
À vous, auditeurs de Radio Okapi, nous vous rappelons aussi que vous étiez en train de suivre cette fréquence de la paix pour votre information. Merci d'avoir été des nôtres.